Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio. Flash sur la Bible. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis bonjour et merci de faire vôtre cette radio dont l'objectif principal est de vous pourvoir de bonne nourriture spirituelle. Je suis Franck Douristil, votre serviteur, qui va vous tenir compagnie pendant ces précieuses minutes à l'heure de la première édition de ce nouveau programme Flash sur la Bible. Vous avez sans doute déjà entendu parler du livre le plus lu et le plus traduit dans le monde, la Bible. Vous avez même eu l'occasion de rencontrer quelques-uns de ses détracteurs forgeant de multiples arguments pour essayer sans succès de saper sa base, fondée sur le roc. Mais qu'en est-il de ce livre qui défie les persécutions et les attaques les plus virulentes? Quelle est sa composition? Qu'est-ce qui la différencie des autres ouvrages? La réponse à ces questions vous sont présentées dans ce programme Flash sur la Bible. Flash sur la Bible, une étude très approfondie de chacun des 66 livres des Saintes Écritures. Flash sur la Bible, une courtoisie de l'association Paroles Certaines. Et pour mieux nous préparer à l'approche de nos amis de Paroles Certaines, accueillons l'artiste Daniel Piala, fondé sur le roc.
C'est l'histoire de deux maisons, admirable construction. La première aimait la mer, sur le sable elle s'était posée. L'autre un peu plus loin en arrière avait préféré s'installer. Fondée sur le roc, quand la bise fut venue, se trouva plus que dépourvue. La première qui gisait par terre, emportée par le tourbillon, mais un peu plus loin en arrière. Après les orages, se relever. Après la tornade, c'est pas facile. J'ai tant reçu de coups, de coups, de coups. Si je m'appuie sur le sable humide, je sais très bien que je cours à la ruine. Il n'y a qu'un lieu où je tiendrai le coup, le coup, le coup. Fondé sur le roc. On en forme des projets. Quand les nuages s'amoncellent, que le ciel commence à tourner, c'est ici que se révèle nos véritables identités. Fondée sur le roc. Rester sur pied malgré les orages, se relever. Après la tornade, c'est pas facile. J'ai tant reçu de coups, de coups, de coups. Si je m'appuie sur le sable humide, je sais très bien que je cours à la ruine. Il n'y a qu'un lieu où je tiendrai le coup, le coup, le coup.
Fondé sur le roc.
Là, 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 sur la Bible.
Sur le roc.
Fondé sur le roc. flash sur la Bible.
La structure. La Bible est formée de deux parties bien distinctes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi ce terme « testament » ? Chacun sait que les dernières volontés d'une personne sont consignées dans un testament et que ses héritiers devront se conformer aux désirs exprimés dans ce document. Si la Bible contient deux testaments, c'est qu'elle nous transmet un double héritage dont Dieu nous rend bénéficiaires. L'Ancien Testament, qui est aussi appelé le livre de l'Ancienne Alliance, est un recueil contenant les dispositions établies par Dieu pour le peuple d'Israël en particulier, afin qu'il remplisse sa mission. La deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, ou Nouvelle Alliance, est le document qui atteste le parfait salut offert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La mort du testataire certifie la validité d'un testament. Or, dans le Nouveau Testament, la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix du calvaire nous assure les dons offerts par Dieu à l'homme. Pardon des péchés, paix du cœur, certitude pour l'au-delà. L'importance du Nouveau Testament est donc indéniable. Ces affirmations remplacent en quelque sorte les dispositions prises précédemment dans l'Ancien Testament. Néanmoins, il ne faut pas penser que l'on puisse dissocier les deux parties de la Bible ou négliger l'une d'elles en faveur de l'autre. Concentrer son attention sur l'Ancien Testament en écartant la révélation divine du Nouveau, c'est s'exclure des dons les plus remarquables que Dieu a accordés à l'homme. Éliminer l'Ancien Testament et n'attacher de l'importance qu'au Nouveau, c'est se priver d'un enseignement très précieux et surtout d'une révélation de base indispensable à la compréhension du Nouveau Testament. Effectivement, l'Ancien Testament prépare le Nouveau et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien. À propos des deux testaments, on peut fort bien évoquer la phrase biblique que Jésus-Christ a prononcée quant au mariage.
Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 6. Mais au-delà de ces deux parties distinctes de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, il importe maintenant de nous pencher sur les grandes sections qui les subdivisent. Prenons tout d'abord l'Ancien Testament. Il s'ouvre par les cinq livres rédigés par Moïse que l'on appelle le Pentateuque. Ce sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Ces livres constituent la base, le fondement de tout l'Ancien Testament. C'est là que Dieu communique à Moïse la loi, c'est-à-dire les ordonnances, qui devaient permettre à Israël d'accomplir sa vocation. Tous les autres livres de l'Ancien Testament montrent l'importance de cette loi divine dans la vie d'Israël. Avant d'aller plus loin, penchons-nous sur la table des matières du Nouveau Testament. Là aussi, certains livres en constituent la base. Ce sont les quatre évangiles, soit quatre récits qui racontent la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les écrits apostoliques qui forment la suite du Nouveau Testament dépendent en quelque sorte de la révélation de Jésus-Christ présentée par les quatre évangiles, en particulier de sa mort expiatoire à la croix du calvaire et de sa résurrection. C'est pourquoi les quatre évangiles sont le fondement du Nouveau Testament. Admirons cette parfaite symétrie. Nous avons dans chacun des testaments une base. Pour l'Ancien Testament, c'est le Pentateuque. Pour le Nouveau Testament, ce sont les quatre évangiles. Reprenons maintenant la table des livres de l'Ancien Testament. Après les cinq livres de Moïse, vous verrez une liste de 12 livres qu'on appelle historiques. Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Ces textes couvrent 9 ou 10 siècles d'histoire nationale d'Israël, depuis l'entrée dans le pays de Canaan sous la conduite de Josué, jusqu'aux captivités des Israélites chez les Assyriens et les Babyloniens, et leur retour en terre promise sous Esdras et Néhémie. Ces livres dépeignent le cadre historique des sections suivantes de l'Ancien Testament. Le mot « histoire » peut donc désigner cette importante partie de l'Ancien Testament. Or, il existe aussi une section historique dans le Nouveau Testament. Elle se limite toutefois à un seul livre, celui des Actes des Apôtres, qui, en 28 chapitres, résume l'histoire de l'Église primitive. La lecture du livre des Actes, et surtout celle des récits des voyages de l'apôtre Paul, nous permettront de mieux comprendre la suite du Nouveau Testament, c'est-à-dire tous les écrits apostoliques adressés aux différentes églises du premier siècle de l'ère chrétienne. Mais revenons à l'Ancien Testament. Suite aux livres historiques énumérés tout à l'heure, la table des matières présente 5 livres qu'on appelle poétiques. Job, les psaumes, les proverbes, l'ecclésiaste et le cantique des cantiques. Cette section est essentiellement didactique, c'est-à-dire consacrée à l'enseignement. Il s'agit d'une instruction complémentaire à la loi de Moïse qui montre comment mettre cette loi en pratique. Nous sommes à nouveau en présence d'un fait commun aux deux testaments, après l'histoire, la doctrine. Après la description des circonstances, l'enseignement approprié à ces circonstances. Ainsi, pour le Nouveau Testament, les épîtres des apôtres ont pour cadre les scènes décrites dans le livre des Actes. Dieu inspire à ses serviteurs un enseignement doctrinal touchant tous les domaines de la marche de l'Église, proposant ainsi à l'avance aux croyants de tous les siècles les principes fondamentaux de la vie et de l'éthique chrétienne. Après la doctrine, la prophétie. La 4e section de l'Ancien Testament comprend 17 livres prophétiques dont vous avez la liste dans la table des matières de votre Bible. Souvenons-nous que les prophètes ont joué un rôle fort important en Israël, surtout lorsque ce peuple s'est éloigné de l'Éternel et a renié les commandements de son Dieu. Ils l'ont averti des jugements consécutifs à ses désobéissances, mais ils ont surtout annoncé l'espérance de jours meilleurs, concentrant leur attention sur la venue de Jésus-Christ, le Messie promis. Ce n'est donc pas étonnant que cette section prophétique s'étende sur une partie importante de l'Ancien Testament. Il convient de citer ici un magnifique passage de la première épître de Pierre qui montre quelle était la préoccupation majeure des prophètes de l'Ancien Testament. Nous lisons, première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 11.
« Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut, le salut en Jésus-Christ, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. »
Oui, les prophètes de l'Ancien Testament étaient pénétrés de l'Esprit de Christ qui leur révélait d'avance ses souffrances à la croix et sa gloire future. Permettez-moi de recourir ici à une image. Je vous parle de mon bureau et j'ai sous les yeux un caillou trouvé dans les Alpes. De prime abord, on se demande ce qu'il peut avoir d'intéressant car il est d'apparence terne. Mais, si j'allume la lampe électrique qui se trouve à proximité, ce caillou scintille de 1000 feux parce qu'il est couvert de minuscules schistes de mica que l'on ne pouvait voir à moins d'un faisceau lumineux dirigé sur eux. Or, l'Ancien Testament apparaît à beaucoup un peu comme ce caillou terne et peu intéressant. Sa lecture est ardue et parfois on en saisit difficilement le sens. Mais que la lumière de Jésus-Christ éclaire l'Ancien Testament et toute cette révélation s'illuminera pour vous au point de faire rayonner la personne de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, sur votre vie. À titre d'exemple, les sacrifices offerts sous le régime lévitique illustrent d'avance le plus grand des sacrifices, celui que Christ a accompli pour nous à la croix. De nombreux personnages décrits dans l'Ancien Testament préfigurent le Fils de Dieu, soit dans sa première venue sur la terre pour mourir, soit dans son retour glorieux pour y régner. Et tous les prophètes ont entrevu Christ, soit comme homme de douleur, soit comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Oui, Jésus-Christ est la clé qui nous ouvre la compréhension de tout l'Ancien Testament. Mais revenons au sujet de notre étude, donc la symétrie des deux testaments. Dans le Nouveau Testament, il est aussi une section prophétique. Elle se limite toutefois à un seul livre, l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ lors de sa deuxième venue, c'est-à-dire dans la perspective des jugements qui viennent et du règne glorieux du Fils de Dieu ici-bas. Base, histoire, doctrine, prophétie. Ces quatre mots peuvent donc définir les quatre sections des deux testaments. Je récapitule. Pour l'Ancien Testament, base, les cinq livres de Moïse. Histoire, les 12 livres suivants de Josué à Esther. Doctrine, les 5 livres poétiques de Job au Cantique des Cantiques. Enfin, prophétie, les 17 derniers livres en liste, Ésaïe à Malachie. Pour le Nouveau Testament, base, les 4 évangiles. Histoire, le livre des Actes. Doctrine, les 21 épîtres apostoliques. Prophétie, l'Apocalypse. L'extraordinaire harmonie qui règne entre les deux testaments prouve bien que dans leur diversité, les saintes écritures ont été conçues selon un plan admirable dont Dieu seul peut être l'auteur. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Le Fils de Dieu lui-même l'a authentifiée dans toutes ses parties. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette profonde vérité. Vous pouvez faire pleinement confiance à l'Écriture sainte. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, le Seigneur Jésus pria son Père pour ses disciples en ces termes.
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je leur ai donné ta parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité.
Une pause musicale avec l'artiste Gilles Bernard avant d'aborder la deuxième partie concernant le livre de la Genèse.
Prophète, ne vois-tu rien venir?
Je vois des soldats couverts d'armes, tout prêts à mourir et à tuer. Partout je ne vois que des larmes, le monde semble s'y habituer. Je vois plus violent que la peste, la haine assombrir l'horizon. Les hommes se déchirent, se détestent, frontières, mitraillettes et prisons. L'amour qui n'a plus rien à faire vient de nous quitter à son tour. Sur terre, il était solitaire. L'amour a besoin de l'amour. Prophète, ne vois-tu rien encore? Je vois des enfants sans leur mère. Je vois des parents sans enfants. Et des paysans sans leur terre. Je vois des terres sans paysans. Je vois de grandes maisons vides et de grands vides dans les maisons. Des gens aux visages si livides qu'ils ne chantent plus de chansons. Des hommes qui essaient de sourire, des femmes aux regards si peureux, des vieux qui ne savent plus rire, des jeunes qui sont déjà vieux.
Flash sur la Bible.
Prophète, ne vois-tu rien là-haut?
Je vois une grande lumière qui semble venir de très loin. Je vois un enfant et sa mère. Mon Dieu, qu'ils sont loin, qu'ils sont loin. Voici qu'ils s'approchent de la terre. L'enfant a grandi, je le vois. Il vient partager nos misères. Déjà, il apporte sa croix.
Bientôt sa divine colère chassera les démons pour toujours.
Bientôt reviendront sur la terre la paix la pitié et l'amour. Prophète, quand va-t-il revenir?
Flash sur la Bible. Sur la
Bible. Le livre de la Genèse. Ouvrons notre Bible à la première page de la Genèse et lisons ensemble le tout premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le texte original hébreu, aucun en-tête ne précède ces mots. Au commencement est effectivement le vrai titre du premier livre de la Bible. Or, on ne pourrait mieux résumer son message. La Genèse est le livre des commencements. Elle nous présente les origines de l'univers, de l'homme, de la société et des nations. Tout provient d'une cause et la cause explique les faits. En nous révélant l'origine des choses, la Genèse nous dévoile les causes profondes des grands faits de l'histoire. Elle contient le germe de toutes les vérités bibliques. Elle est l'introduction inspirée de toute la parole divine. Elle en est le fondement. Si on l'enlevait de la Bible, tout l'édifice s'écroulerait. Nous avons dit que la Genèse est le livre des commencements. Aussi révèle-t-elle le temps sortant de l'éternité, l'univers surgissant du néant et l'homme suscité par le Créateur. Elle décrit aussi l'irruption du péché dans le jardin d'Éden, l'origine de la souffrance et de la mort, le point de départ de la civilisation, de l'industrie, des arts, des peuples et des langues. Elle nous montre les premiers développements du plan divin de salut pour le monde. Enfin, elle nous présente les ancêtres du peuple d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Mais revenons à ce premier verset de la Genèse que nous avons lu tout à l'heure. « Au commencement, Dieu ». En hébreu, ce mot « Dieu » présente une forme grammaticale inattendue, puisqu'il apparaît avec une terminaison plurielle. N'est-ce pas l'évocation de la Trinité divine, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, tous trois déjà à l'œuvre dans ce lointain commencement? Mais Dieu, Elohim, ce nom pluriel, est suivi en hébreu d'un verbe au singulier. C'est l'indice de l'unité absolue de la Trinité où les trois agissent de concert, Dieu le Père, créateur des cieux et de la terre, Dieu le Fils, par qui toutes choses ont été créées, et je cite ici l'apôtre Paul, et Dieu le Saint-Esprit, que le deuxième verset de la Bible nous présente comme une puissance déversant sa vie sur notre planète. L'authenticité du livre de la Genèse a été contestée, et il est bon de relever le défi posé par certains critiques qui ont vu dans le premier livre de l'Écriture une série de documents hétéroclites que des scribes israélites auraient assemblés en une période nettement postérieure à Moïse. Ainsi, en raison de l'alternance des noms divins Elohim et Yahvé, en français Dieu et l'Éternel, certains spécialistes ont classé les passages de la Genèse par catégorie, récits éloïstes, récits yavistes, auxquels ils ont encore ajouté les récits dits de la tradition sacerdotale. Mais ramener ainsi le texte biblique au niveau d'une rédaction profane, ou faire de la Genèse une mosaïque de récits assemblés par quelque habile compilateur, ce n'est pas tenir compte d'un fait capital et déterminant, celui de l'inspiration des Écritures. Nous affirmons ici, avec des multitudes de commentateurs versés dans la science de la Bible, que Moïse est l'auteur de la Genèse. Qu'il ait eu à sa disposition un certain nombre de documents écrits, importe peu. Le Saint-Esprit a présidé lui-même à l'élaboration du texte sacré. Il a subjugué l'esprit de Moïse dans sa tâche d'écrivain. Il a écarté les éléments qui ne devaient pas entrer dans sa rédaction et il a incorporé les faits que Dieu désirait nous communiquer. Les divisions arbitraires auxquelles on a recouru pour analyser la Genèse, et ces divisions, hélas, sont signalées dans les commentaires de certaines Bibles, n'ont qu'une importance très secondaire. Elle s'estompe au profit de considérations primordiales, surtout lorsqu'on étudie la Genèse sous l'angle de son message. Nous l'envisagerons donc avec vous sous trois grandes perspectives que trois mots résument fort bien. Génération, chapitre 1 à 2. Dégénération, chapitre 3 à 11. Régénération, chapitre 12 à 50. Tout d'abord, génération. Les deux premiers chapitres de la Genèse nous décrivent la création du monde et celle de l'homme. Tout en étant d'une simplicité surprenante, ce récit demeure en parfait accord avec les affirmations de la science moderne. Ainsi, l'apparition de la lumière précède celle du disque solaire, les végétaux sont antérieurs aux animaux, les grands poissons devancent les mammifères, et l'homme n'arrive qu'en dernier. À l'origine, Adam était une créature merveilleuse, capable de dominer sur tous les animaux. Il vivait en plein accord avec Dieu dans le plus beau des jardins. Nombre de limitations physiques et surtout les maladies ne sont intervenues que plus tard. Mais, après le récit de cette génération parfaite sortie des mains du Créateur, survient une catastrophe. Adam et Ève doutent de Dieu et tombent dans le péché. C'est ainsi que s'ouvre la seconde section de la Genèse. Nous la résumerons par un mot, dégénération, qui est un synonyme de dégénérescence. Comme le péché flétrit tout dans nos vies, il se situe également à l'origine de tous les maux de l'humanité. Par sa désobéissance, Adam a perdu la communion avec Dieu et il a hérité le joug de la souffrance. C'est le sujet du chapitre 3 de la Genèse. Puis la première famille est marquée par le meurtre de Caïn, Genèse 4. Les patriarches antédiluviens succombent à la mort, Genèse 5. En Genèse 6 et 7, la société se corrompt à tel point qu'il faut que Dieu la juge et l'extermine par les eaux du déluge, et une seule famille échappe au désastre. Noé et les siens sont à peine sortis de l'arche, Genèse 8, que réapparaissent les symptômes du vice inné au cœur de l'homme, Genèse 9. Quant aux nations à l'état embryonnaire, elles n'échappent pas non plus à l'infection du mal. C'est le sujet de Genèse 10. Et devant la première manifestation de leur orgueil collectif, le Tout-Puissant confond leur langage, puis les disperse sur toute la surface de la terre, ce que raconte Genèse 11. Entre la deuxième et la troisième section de la Genèse, le chapitre 11 est une charnière. Comme la société humaine s'organise sans Dieu, l'Écriture sainte n'y fera plus guère allusion. Cependant, la dégénération de l'humanité n'a pas annulé les plans de grâce de l'Éternel en sa faveur. Dieu est prêt à recommencer. À vrai dire, il poursuit son plan de salut pour les hommes, ce plan qui peut se résumer par un mot, régénération. Or, si la dégénération a frappé successivement l'homme, la famille, la société et les nations, par la régénération, Dieu recommence au point de départ, il choisit un homme, Abraham, qu'il arrache à son pays pour le conduire en Canaan, Genèse 12 à 16, puis il établit une famille, les patriarches, en concentrant sur elle les promesses, Genèse 17 à 36. Ensuite, il préserve la société de la famine par le moyen de Joseph, Genèse 37 à 41. Et Joseph sera, en dernier ressort, le moyen de salut de la future nation d'Israël, Genèse 42 à 50. Lorsque Dieu, dès le chapitre 12 de la Genèse, concentra son attention sur Abraham et sur sa descendance, c'est comme s'il avait porté ses regards sur la source pure d'un petit filet d'eau avec lequel il se proposait de régénérer le fleuve de l'humanité tout entière. Abraham allait apprendre à marcher par la foi dans la dépendance de l'Éternel. Il ne sera pas seulement l'ancêtre d'Israël et de beaucoup de peuples sémites, l'Écriture le nomme le Père des croyants. Aujourd'hui encore, il nous montre la voie excellente aboutissant à la certitude de notre salut. Voici ce que l'apôtre Paul écrivait beaucoup plus tard au sujet d'Abraham.
Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification.
Nous vous avons lu les versets 20 à 25 du chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Abraham a cru, et sa foi lui fut imputée à justice. Dieu l'a béni parce qu'il lui a fait confiance. Ne voulez-vous pas à votre tour croire comme Abraham? Le père des croyants a jeté par-dessus 2000 ans d'histoire un regard de foi sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre expiatoire. Lisez donc le chapitre 22 de la Genèse et vous verrez que le patriarche accepta le suprême sacrifice, affirmant par avance sa foi en la résurrection. En Isaac, son fils unique, qu'il avait lié sur l'autel, il voyait la personne du Fils unique de Dieu offert volontairement en sacrifice pour le salut des hommes. Aujourd'hui, pourquoi ne vous joindriez-vous pas à la multitude des croyants qui ont Abraham pour père spirituel, en regardant par la foi, non pas 2000 ans à l'avance, mais 2000 ans en arrière, à ce même événement historique de la croix du calvaire où Jésus-Christ est mort pour vous? Relisons la déclaration de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, y ajoutant cette fois le verset suivant qui se trouve au début du chapitre 5.
Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
Votre certitude repose sur l'œuvre parfaite accomplie pour vous par Jésus-Christ au calvaire, où il a été livré pour vos offenses avant de ressusciter pour votre justification. Et votre certitude repose encore sur la déclaration absolue de la parole de Dieu.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
La dernière pause musicale avec ce chant « Nul ne comprend comme Jésus ».
Salut, là il s'échoue.
sur la Bible.
Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio.
Amis fidèles de la radio Ebenezer International, voilà qui met fin à ce premier numéro de Flash sur la Bible. Un programme conçu spécialement dans le but de vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Si ce programme vous a plu, si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, soyez libre de nous les envoyer à cette adresse email. francradio@podomatic.com francradio@podomatic.com. Et avant de partir, j'aimerais remercier toute l'équipe de l'association Parole Certaine pour leur collaboration avec cette radio. Je vous rappelle que Parole Certaine est un site soutenu par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. Et pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet www.bible-ouverte.ch www.bible-ouverte.ch. Et pour tout autre contact, www.bible-ouverte.ch/contact.html. Je voudrais remercier également tous les artistes qui ont contribué à la réalisation de cette émission, tels que Daniel Piala, Gilles Bernard. Et nous remercions également l'équipe de la société Sephora Musique de la Vie, à qui nous devons le dernier chant intitulé « Nul ne comprend comme Jésus », sans oublier la société CDE dirigée par Danny et Moïse Urtrel, qui nous a envoyé le CD instrumental sur lequel figure le générique de cette émission. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, nous vous remercions de votre écoute et prions pour que le Seigneur continue d'utiliser cette radio pour vous aider à mieux le connaître. C'était pour vous servir. Au micro et à la réalisation, votre ami Franck Duristil, qui vous remercie et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Flash sur la Bible. Au revoir.
C'était Flash sur la Bible.
C'est l'histoire de deux maisons. Admirable construction. La première aimait la mer, sur le sable elle s'était posée. L'autre un peu plus loin en arrière avait préféré s'installer.
Fondée sur le roc,
quand la bise fut venue, se trouva plus que dépourvue. La première qui gisait par terre. Pas facile, j'ai tant reçu de coups. Si je m'appuie sur le sable humide, je sais très bien que je cours à la ruine. Il n'y a qu'un lieu où je tiendrai le coup fondé sur le roc. Des idées.
danger. Quand les nuages s'amoncellent, que le ciel commence à tourner, c'est ici que se révèlent nos véritables identités.
Fondées sur le roc.
Rester sur pied, malgré les orages, se relever. La tornade, c'est pas facile. J'ai tant reçu de coups, de coups, de coups. Si je m'appuie sur le sable humide, je sais très bien que je cours à la ruine. Il n'y a qu'un lieu où je tiendrai le coup, le coup, le coup.
Fondé sur le roc.
Sur la Bible.